Ce sera midi 30, temps universel, avec Nicolas Sûr.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est la Libre Antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Et je vous le disais tout à l'heure, vous êtes nombreux à souhaiter prolonger notre débat d'hier sur la Côte d'Ivoire après la publication au début de semaine de la liste électorale provisoire. Nous sommes à 7 mois de l'élection présidentielle et sur cette liste, toujours provisoire, je le précise, c'est important, ne figure ni l'ex-président Laurent Gbagbo, ni Charles Blé Goudé, ni Guillaume Soro, en raison de leur condamnation par la justice ivoirienne. Bonjour Ange Patrick. Allô Ange Patrick.
Allô ?
Oui, vous êtes à l'antenne, soyez le bienvenu. Vous êtes en train de conduire ?
Bonjour.
Bonjour. Ange Patrick, cette liste électorale, vous disiez au Standard qu'elle était biaisée.
Oui.
Et donc ?
Alors, oui, cette liste électorale est biaisée, puisque le nom du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé, du premier ministre Soro Guillaume n'y figure pas. Donc, vraiment, elle est vraiment biaisée.
Elle est vraiment biaisée. Bon, d'accord. Bon, visiblement, ouais. Vous êtes en train de conduire, Ange Patrick. On ne peut pas conduire, avoir une oreillette et en même temps passer à la radio, ce n'est pas possible. Donc, je vous souhaite une bonne route. Prenez soin de vous, faites attention. Bonjour, Eugène.
Oui, bonjour.
À Abidjan, en Côte d'Ivoire, liste électorale biaisée, disait à l'instant Ange Patrick. Vous êtes sur la même longueur d'onde ou au contraire, vous dites, eh bien c'est la loi, ils ont été condamnés, ils n'ont pas été amnistiés, donc ils ne peuvent pas figurer sur une liste électorale, donc ils n'ont pas leurs droits civiques.
Bon, liste électorale biaisée, moi je ne vais pas aller dans le même sens. Ce que moi je veux dire, c'est que cette liste électorale, déjà même avant même que rien ne sorte, depuis 2020, M. Gbagbo n'est pas sur la liste, ainsi que tous les autres qu'on a cités tout à l'heure, M. Charles Blé Goudé et aussi le Premier ministre Soro Guillaume. Moi, je disais que il faudrait que, arrivé un moment, on pense à la Côte d'Ivoire. Arrivé un moment, il faut qu'on pense à la Côte d'Ivoire. On a vu ce qui s'est passé en 2010, 2020. Et ces choses-là, vraiment, je ne pense pas qu'il y a un Ivoirien aujourd'hui qui veut vivre ou revivre encore ces mêmes choses-là.
C'est-à-dire que vous êtes convaincu, Eugène, que l'absence de ces trois opposants risque de créer des tensions.
Effectivement. Ça risque de créer des tensions. Aujourd'hui, ils ne sont pas sur la liste. On ne sait pas ce que leurs militants ou leurs sympathisants sont en train de préparer. Mmh. Et ça inquiète.
Oui. Mais j'entends bien que ça inquiète les militants. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas un peu de provocation, par exemple, au sein du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo ? Pourquoi le PPACI a-t-il choisi un candidat qui est inéligible ?
Non, mais... pour eux, le candidat n'est pas inéligible.
Ah bah si, il est inéligible. La loi est claire. Excusez-moi, Eugène. Après, vous avez le droit de contester de la loi, de dire qu'elle est scandaleuse. La loi dit que toute personne qui a été condamnée, qui est privée de ses droits civiques, ne peut pas figurer sur une liste électorale et donc ne peut pas ni voter, ni se présenter à une élection.
Moi, ce que je dis, ça n'engage que moi.
Bien sûr.
J'ai dit qu'arrivé à un moment, il faut qu'on pense à la Côte d'Ivoire. Et pour penser à la Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui est là, qui est le garant de toutes nos lois ici, c'est le président de la République. Et le président de la République, je pense qu'il a ce pouvoir, il a cette souveraineté-là pour vraiment prendre des décisions, pour enlever toutes ces choses qui vont nous
conduire. Pour amnistier. Donc il faut qu'il... Voilà, vous attendez une amnistie présidentielle pour permettre donc à ces trois opposants, malgré leur condamnation, à briguer la magistrature suprême. Eugène, je sais que le débat passionne beaucoup en Côte d'Ivoire. Il y a des réactions de l'ensemble de l'ensemble de la classe politique. Il y a le PPACI, évidemment, le COGEP de Charles Blé Goudé, le GPS de Guillaume Soro, le PDCI a également réagi hier. Le PDCI, bon, qui pour l'instant n'a n'a aucun problème avec la commission électorale, le PDCI, qui réclame des élections inclusives pour, je cite, « éviter une crise ». On aura évidemment l'occasion d'en reparler très vite dans l'émission. Merci Eugène, bonne journée à Abidjan. Soyez le bienvenu Joël, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à toute la famille Appel sur l'actualité.
Vous êtes à Yaoundé au Cameroun et vous êtes en colère, Joël, après avoir entendu parler du projet de Donald Trump qui veut mettre en place des restrictions d'entrée sur le territoire américain pour les ressortissants de 43 pays à travers le monde, 43 pays dont 22 sont africains.
Oui, justement Juan, je suis très très en colère parce que pour moi, c'est un mépris de voilà d'exclure ces pays africains là, ou alors de rendre un peu plus compliqué l'octroi du visa. C'est tout simplement un manque de respect pour les Africains.
Oui, mais enfin en même temps, vous dites c'est un manque de respect. La Maison Blanche invoque des raisons de sécurité.
Oui, mais Juan, nous sommes sur la scène internationale. Écoutez, sur la scène internationale, ce monsieur qu'on appelle Trump.
Qu'on l'appelle, il s'appelle comme ça, hein. C'est son nom.
Il doit revenir sur Terre. À un moment donné, sur la scène internationale, ce n'est pas que. Vous savez, c'est un monsieur qui avance des raisons bidons. L'aspect sécuritaire, mais sur la scène internationale, il y a beaucoup d'autres critères. Il y a la santé, il y a l'économie. Ouais. Pourquoi s'attarder? Moi, je trouve que c'est juste un échappatoire que ce monsieur a mis sur pied, pour une fois de plus manquer le respect aux Africains.
Bon, en tout cas, je rappelle hein, que sur les 22 pays africains, 16 figurent dans la catégorie jaune. Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Tchad, et notamment votre pays, Joël. Et ces pays de la liste jaune ont deux mois pour répondre à une série d'exigences sécuritaires, que ce soit en termes de partage d'informations sur les voyageurs ou de modalités de délivrance de passeports. Et s'ils ne répondent pas donc à ces exigences au bout des 60 jours, ils risquent fort de passer dans la liste orange, où l'on trouve le Soudan du Sud, l'Érythrée, et la Sierra Leone, où l'accès au visa sera un peu plus compliqué, et sinon peut-être, qui sait, dans cette liste rouge qui compte trois pays africains, la Libye, le Soudan et la Somalie, pour qui il est impossible pour un ressortissant de ces trois pays d'obtenir un visa et de pouvoir donc entrer dans le territoire, sur le territoire américain. Joël, votre coup de gueule est terminé ?
Juan, écoutez, vraiment, je vous ai dit, le monde doit comprendre que les Africains ont d'ores et déjà commencé à ouvrir les yeux, comme on peut dire ça. Et vraiment, ce monsieur, je vous ai dit, Donald Trump, il doit comprendre qu'il a besoin des Africains. Il doit comprendre que nous sommes dans un village planétaire où l'indépendance est le mot-clé. Donc, à un moment donné, s'il existe, je ne sais pas, c'est comme si c'était un chantage qu'il faisait, il se retrouve dans une position, il a même plus besoin des Africains, parce qu'en fait, nous sommes dans un pays où le nucléaire est mis sur pied pour faire le chantage et tout. Bon. L'uranium, les ressources naturelles, je pense que on part dans tous les sens là.
Bon, en tout cas, on a bien entendu votre coup de gueule. Joël, je vous interromps, je regarde la pendule, il y a beaucoup de monde au standard et le temps passe très très vite. Merci de nous écouter sur les 105.5 à Yaoundé. Bonne journée, bonne fin de semaine au Cameroun. On parle du Mali. Mali, et oui, avec ces nouvelles taxes sur la téléphonie, elles sont entrées en vigueur il y a maintenant 2 semaines. Et Abdoulaye, qui nous suit sur les réseaux sociaux, n'est pas content. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Juan, bonjour à tout le monde, ravi de vous retrouver.
Eh bien, ravi d'entendre des auditeurs de Bamako, je sais qu'on nous suit sur les réseaux sociaux, vous nous suivez également sur la chaîne YouTube en direct RFI. Je rappelle Abdoulaye, à tous nos auditeurs, que depuis 2 semaines, à chaque fois que vous, comme tous les Maliens, rechargez du crédit téléphonique, l'État prélève désormais 10% du prix. Et à chaque fois que vous procédez à un transfert d'argent par mobile monnaie, l'État prélève 1%. Et vous dites que cette taxe énerve de plus en plus les Maliens.
Ah oui, absolument, ça énerve les gens. À présent, moi, j'ai du mal à comprendre et à accepter ces mesures. Et surtout, le moment semble être mal choisi. Hein. Nous vivons dans des difficultés extrêmes. Notre quotidien est à la survie. Je pense que ce n'est pas en ce moment qu'il faut choisir de nous imposer d'autres taxes.
Oui. En même temps, en même temps, l'État dit avoir besoin d'argent pour des projets de développement, des infrastructures de base, améliorer l'accès à l'électricité. Et l'État dit, grâce à cet argent prélevé à travers donc la téléphonie mobile, on pourra financer un fonds. On espère, disent les autorités, au moins 200 milliards de francs CFA de revenus annuels, soit un peu plus de 300 millions d'euros pour financer justement ces projets.
Vous savez, il y a une crise de confiance entre les Maliens et leurs autorités. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, il y a une crise de confiance. On ne sait pas comment sera géré ce fonds et à quoi c'est destiné ce fonds. Quels sont les principes rationnels derrière la gestion de ces ressources? On ne sait pas, les gens sont dans les doutes. C'est pourquoi beaucoup vous diront qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision. Bon, vous voyez... On ne nous a pas demandé notre avis avant de prendre la décision. Mmh. Vous voyez,
c'est une décision unilatérale et c'est vrai que quelques partis, ils sont rares à oser taper sur la table, mais c'est vrai que quelques partis dénoncent un dispositif opaque, hein, puisque ce fonds dont on parle, il est placé sous la tutelle de la présidence de la République, il est administré par un comité composé de ministres, je crois qu'il y a le directeur de cabinet du Premier ministre également, il y a un représentant de la présidence, mais il n'y a aucun moyen de contrôler l'utilisation de cet argent. Vous avez certainement entendu, Abdoulaye, cette semaine, l'enlèvement d'Alou Badra Sakho, qui est une personnalité, une figure de la société civile, et qui a été enlevé parce qu'il osait, il a osé contester justement ces nouvelles taxes sur la téléphonie mobile.
Non seulement il a contesté, mais c'est la preuve que les gens devraient être associés à la décision. On nous met devant le fait accompli. Les gens n'ont pas été associés. Ensemble, les gens auraient proposé d'autres modalités plus souples, peut-être plus acceptables, mais ça n'a pas été le cas. Oui. Et il a eu le courage de dénoncer. Il a dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne sait pas. Et puis, le fait de loger le fonds à la présidence, si vous me permettez, Juan, le fait de loger à la présidence, ça expose le président lui-même à des critiques. Mmh. On aurait pu loger ça au trésor public. Et au départ, on nous avait dit que c'était destiné à l'électricité, à rétablir l'électricité. Mais après, on trouve que c'est pour beaucoup de postes de dépenses.
Ouais, bon, c'est vrai que certains disent plutôt, effectivement, certains dénoncent l'opacité de tout le mécanisme mis en place. Et je me souviens d'avoir eu un auditeur de Bamako également il y a deux semaines, lorsque les taxes étaient entrées en vigueur, en disant, bah, s'ils ont besoin d'argent, l'État n'a qu'à réduire ses frais, réduire son train de vie. Voilà, pour dire clairement les choses. Merci beaucoup, Abdoulaye. Bonne journée, bonne continuation à Bamako. Nous parlions cette semaine de la Guinée. Vous êtes encore nombreux à nous appeler de Conakry et d'ailleurs, puisque la classe politique est secouée, c'est peu de le dire, après la décision des autorités de dissoudre une trentaine de partis politiques durant les trois prochains mois. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Juan.
Vous êtes en colère, Ibrahim, après cette décision?
Oui, absolument. Nous sommes en colère parce que... D'après les résultats de l'évaluation des partis politiques en Guinée, sur 211 partis politiques répertoriés, 37 partis n'ont pas été évalués, 57 partis ont été dissoutes, 54 sont suspendus et 67 sont mises en observation. Mmh. Donc nous pensons que le CNRD est en train de démanteler tous les partis politiques gênants sur son passage et avec la pleine collaboration de ces partis politiques naïvement. Nous pensons que des partis politiques historiques comme le RPG, l'UFR et le PUP sont suspendus.
Oui. Mais ils sont suspendus officiellement pour ne pas avoir respecté un certain nombre de critères. Les partis se doivent d'organiser régulièrement des congrès. Parmi les partis suspendus, certains n'ont pas tenu de congrès depuis 10, voire même 15 ans.
Oui, Juan, mais par exemple, si vous prenez l'UFDG, l'UFDG s'est vu octroyer un délai intenable pour renouveler ses instances nationales, dont le renouvellement est pourtant suspendu par la justice guinéenne. Oui. Comment vous pouvez expliquer cela, Juan?
Bon, donc il y a une volonté pour vous de quoi, de d'écarter des partis, de mettre de côté, d'éliminer politiquement certaines personnalités politiques. D'autant que cette année est censée être une année électorale en Guinée.
Oui, Juan, en temps normal, tous les partis politiques doivent se soumettre à une véritable démarche d'évaluation, conformément aux lois et règlements qui régissent leur fonctionnement. Mais de notre point de vue, ces évaluations du MATD, c'est-à-dire du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, font partie d'un ensemble d'outils avec l'instrumentalisation de la justice, l'exil forcé, les enlèvements et kidnappings pour se débarrasser des partis politiques et opposants qui sont contre la candidature du président Doumbouya aux prochaines échéances électorales.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est ce que dénonce d'ailleurs le collectif des Forces Vives de Guinée qui voit dans cette dissolution et suspension la volonté de la junte d'éliminer de la scène politique les partis les plus représentatifs. Bonjour Alpha.
Bonjour Juan, je vous salue et je salue tous vos travailleurs.
Merci.
Oui, ok. Moi, je suis tout à fait d'accord concernant l'assainissement de l'espace politique. Vous savez, l'assainissement de l'espace politique est très important en République de Guinée. Vu la prolifération de partis politiques sont les sources des conflits en République de Guinée. La division, l'ethnocentrisme, le régionalisme, les violences politiques.
Donc il y a trop de partis dans votre pays et il faut donc faire le ménage.
Oui, bien sûr, parce que si vous regardez, ce sont les sources des conflits communautaires, régionalistes, parce que beaucoup de partis sont là et ils sont basés sur leur ethnie, et non sur un projet de société. Et ce n'est pas normal, parce qu'un parti politique, dans les conditions normales, doit se baser. Comment dire, doit appeler la population guinéenne sur un projet de société et non sur la base d'une région ou bien communauté ou ainsi de suite. Ouais.
Et excusez-moi Alpha, je vous interromps, mais j'ai sous les yeux le commentaire que vous avez envoyé sur WhatsApp. Vous dites, en Guinée, il nous faut que deux partis, comme aux États-Unis.
Oui,
c'est largement suffisant.
Oui, c'est largement suffisant, parce que si c'est comme aux États-Unis, donc les deux partis là, ça va non seulement et lutter contre ce que je vous ai dit là, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le communautarisme. Parce que si vous voyez, il y a des micro-partis ici, nous fatiguent. Si vous vous prenez au temps du général Lansana Conté en 2003, lorsqu'il a organisé les élections, les ténors de partis politiques ont boycotté l'élection. Il a trouvé un micro-parti, quelqu'un qu'il avait lui-même fabriqué, qui était Mamadou Boy Barry.
Oh là, donc vous remontez au début des années 2000, franchement, c'est un peu confus. J'ai du mal à vous suivre. En tout cas, vous saluez la décision de faire le ménage, hein, pour dire clairement les choses. Là aussi, c'est un sujet qui reviendra très vite, hein, puisqu'on verra dans 3 mois la décision que prendront les autorités guinéennes à l'endroit de ces partis suspendus. Seront-ils définitivement dissous? Là aussi, ça méritera d'organiser un débat. Il nous reste 2 petites minutes. Bonjour Alfred et merci d'avoir patienté. Bonjour.
Bonjour Juan.
À Lomé au Togo. Et comme de nombreux auditeurs cette semaine, vous avez envie de prendre la parole après la décision de 3 pays sahéliens, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, de se retirer de l'Organisation internationale de la francophonie.
Absolument.
Eh bien, on vous écoute.
La dernière fois, j'avais patienté au standard quand ça a coupé par rapport au temps.
Oui, bah là aussi, si vous perdez du temps, vous n'aurez plus le temps de prendre la parole. Vous n'avez plus qu'une minute.
Bon, je disais que c'était vraiment normal, dans l'ordre des choses, pour eux de quitter l'Organisation internationale de la francophonie. Parce qu'ils sont en train de rompre toute relation avec la France. Et il faudrait qu'ils respectent leur logique de quitter l'Organisation internationale de la francophonie. Mais c'est la francophonie même qui donne cette opportunité-là à ces pays de pouvoir quitter la francophonie. Parce que la francophonie est plus politique que culturelle. Mm-hmm. Et si la francophonie mettait un peu de côté ses ambitions politiques et pour se baser sur la culture, ça sera sur la promotion des langues ou de la langue française.
Alfred, vous êtes en train de nous dire que la francophonie n'aurait jamais dû condamner les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger?
Si la francophonie doit condamner les coups d'État au Niger et au Burkina et autres, la francophonie doit aussi condamner ce que le Rwanda fait au niveau de la RDC. C'est une Rwandaise qui est la chef secrétaire générale de la francophonie.
Donc vous avez l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures, et plus le temps passe, moins la population se retrouve dans les mesures et décisions prises par la francophonie. Le débat est clos, l'émission est terminée. Bonne journée, bon week-end, et on revient lundi, 8h10, TU.
Transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.